VOA Afrique, les infos. À Washington.
Jean-Roger Bion, bonjour à tous. Il est midi à Libreville au Gabon. Au Soudan, c'est la confusion depuis ce matin après l'annonce de l'imminence d'une importante déclaration de l'armée. Convaincue de la chute du président Omar el-Béchir, une immense foule de Soudanais est rassemblée aujourd'hui dans le centre de Khartoum dans l'attente de la déclaration promise par l'armée à la télévision officielle. La télévision nationale a interrompu ses programmes pour diffuser en boucle des chants patriotiques et militaires. Pour le sixième jour consécutif, des milliers de manifestants déterminés sont, eux, rassemblés devant le siège de l'armée, qui abrite aussi le ministère de la Défense et la résidence officielle du président Béchir. L'armée est déployée dans de nombreuses rues de la capitale, ainsi que des membres du groupe paramilitaire des forces de soutien rapide. Le président congolais Félix Tshisekedi est attendu aujourd'hui à Lubumbashi, deuxième ville du pays. Il veut s'enquérir de la situation sécuritaire et va tenir sur place un conseil de défense. Hier, les militants de l'UDPS sont partis, ont manifesté dans la ville après l'échec de leur candidat Koko Mulongo au poste de gouverneur. En marge de tout ceci, un député remet en cause le mariage de raison avec le FCC, la coalition autour de l'ancien président Joseph Kabila qui a tout raflé aux assemblées nationales, provinciales et au Sénat. Koko Mulongo qualifie les résultats de l'élection des gouverneurs d'escroquerie et souhaite un nouveau départ.
La coalition n'a pas de sens. Moi, je pense qu'il y a escroquerie. Un point très. Depuis qu'on a commencé, cette coalition n'est qu'une escroquerie. Et je pense que c'est une sonnette d'alarme pour notre président de la République et tous ceux qui sont autour de lui pour comprendre que si nous continuons comme ça, nous allons nous faire escroquer à toute opération institutionnelle.
Qu'est-ce qu'il faut ?
C'est remettre encore les choses en place. Ça signifie tout recommencer à zéro et savoir exactement qu'est-ce que l'on doit décider pour continuer dans l'avenir et ou encore recommencer sur tout ce que nous avons eu à faire. Parce que dans un premier temps, le Sénat, c'est un fruit d'une tricherie que tout le monde sait. Et d'ailleurs, les dossiers sont encore au niveau de la justice. Et si nous allons du côté des élections au niveau provincial et même national, c'est pas normal qu'un président de la République sorte gagnant avec un minimum des députés nationaux qui sont moins nombreux que les perdants, c'est clair. Il n'y a rien à commencer à expliquer. Il ne faut pas aller à l'université pour comprendre ça. Si ça ne dépendait que de moi, Koko Mulongo, je reprendrai tout à zéro.
Koko Mulongo, propos recueillis par Naval Mabila, notre correspondant à Lubumbashi. Face à la colère grandissante des lycéens qui protestent depuis le début de la semaine contre un changement du système de bourse d'études, le gouvernement du Gabon a décidé de suspendre les cours dans tout le pays jusqu'à nouvel ordre. L'ensemble des établissements scolaires publics sont touchés par cette mesure de suspension et ce matin, les élèves de la maternelle jusqu'au lycée qui se sont rendus à l'école ont trouvé les portes closes. Dans un communiqué publié mercredi soir, le ministre de l'Éducation nationale, Michel Manga-Amesson, a annoncé la suspension des cours jusqu'à nouvel ordre. Cette décision fait suite donc à la vague de mobilisation des lycéens qui manifestent depuis lundi dans les rues des principales villes du pays. Les combats dans la capitale libyenne ont fait 56 morts et 266 blessés au cours des 6 derniers jours, a indiqué aujourd'hui l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, alors que l'ONU se mobilise pour soutenir les hôpitaux débordés du pays. Dans un pays plongé dans le chaos depuis la chute du régime Kadhafi en 2011, les organisations internationales craignent que les civils ne fassent une nouvelle fois les frais de violence. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a réclamé hier un cessez-le-feu en Libye pour éviter une bataille sanglante dans la capitale après une réunion d'urgence du Conseil de sécurité de l'ONU mercredi. Algérie, l'élection présidentielle est fixée au 4 juillet conformément à un décret signé par le président par intérim Abdelkader Ben Salah. Dans le même temps, l'armée a mis en garde les manifestants contre la poursuite de leur mouvement de contestation du régime. Morgane Guiriec.
L'Algérie est le théâtre depuis le 22 février de manifestations monstres qui réclamaient dans un premier temps le départ du président Abdelaziz Bouteflika au pouvoir depuis 20 ans, qui a fini par démissionner le 2 avril. Les contestataires réclament désormais la fin du système dans son ensemble. Abdelkader Ben Salah, chef de l'État, a procédé à la signature du décret présidentiel portant convocation du corps électoral à l'élection présidentielle fixée au 4 juillet 2019, a indiqué la présidence. Monsieur Ben Salah, qui ne peut être candidat à cette élection en vertu de la Constitution, avait promis auparavant un scrutin présidentiel transparent. En dépit de cet engagement, le président du Conseil de la Nation, chambre haute du Parlement depuis 17 ans, assimilé au long règne d'Abdelaziz Bouteflika, reste rejeté par la rue et faisait face, mercredi, à de nouvelles manifestations ainsi qu'à un appel à une grève nationale. Tout en s'engageant lui aussi à ce que l'armée veille à la transparence du processus de transition, le chef d'état-major, le général Ahmed Gaïd Salah, a de son côté haussé le ton. Il a écarté catégoriquement le principe d'un vide constitutionnel dans une apparente fin de non-recevoir aux revendications d'un départ du système et la mise sur pied d'institutions ad hoc.
Merci Morgane. Un gendarme a été tué hier soir lors d'une attaque contre un camp de réfugiés à Boudébou dans le nord du Burkina Faso, selon des sources sécuritaires. Des individus armés non identifiés ont attaqué aux environs de 19h locales et GMT, le camp des réfugiés à Goudébou, localité située à une quinzaine de kilomètres de Dori, chef-lieu de la région du Sahel, a déclaré une source sécuritaire. Située à une centaine de kilomètres de la frontière malienne, le camp de Goudébou, qui s'étend sur une centaine d'hectares, abrite des réfugiés ayant, je l'ai dit, fui le nord du Mali.
Nos infos sur voaafrique.com.
Jean-Roger Billon à ce micro. Nous émettons de Washington. Le fondateur du site lanceur d'alerte Wikileaks, Julian Assange, a été arrêté aujourd'hui par la police britannique à l'ambassade d'Équateur à Londres, a confirmé le secrétaire au Home Office, Sajid David. Âgé de 47 ans, Assange s'était réfugié à l'ambassade d'Équateur à Londres en juin 2012 pour ne pas avoir à être envoyé en Suède où il était accusé de viol, et de crainte aussi que les autorités britanniques décident son extradition vers les États-Unis après la publication sur Wikileaks de documents confidentiels de l'administration américaine. Par ailleurs, l'avocate de la femme qui accuse Julian Assange de viol en Suède a indiqué aujourd'hui qu'elle allait demander au parquet la réouverture de l'enquête après l'arrestation du fondateur de Wikileaks à Londres. Les chefs d'État et de gouvernement européens ont convenu dans la nuit de mercredi à jeudi de reporter la date du Brexit au 31 octobre, offrant à la première ministre britannique Theresa May un délai plus long qu'elle ne le demandait pour résoudre l'impasse actuelle à Londres concernant l'accord de retrait. Ce nouveau report de la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne, qui était programmé demain vendredi, écarte dans l'immédiat la perspective d'un divorce sans accord. Mais le Conseil européen extraordinaire n'a pas permis de livrer des certitudes sur la date et les modalités précises du Brexit, alors que Theresa May peine à rassembler une majorité à la Chambre des communes pour ratifier l'accord de retrait qu'elle a négocié avec Bruxelles. Cela dit, pour Cuba, les États-Unis sont en but à ce qui se passe à Cuba. Nous écoutons Herman. Bon.
Aujourd'hui, notre constitution est proclamée, notre devoir est uniquement envers elle et envers Cuba, a tuté le président cubain Miguel Díaz-Canel. La nouvelle constitution est fille de son temps et reflète la diversité de la société, a déclaré de son côté l'ancien président Raúl Castro, chef du Parti communiste cubain. Depuis 2008, les Cubains peuvent travailler pour eux-mêmes ou dans des entreprises privées et la nouvelle constitution reconnaît une place limitée à l'économie de marché. Toutefois, elle réaffirme le rôle central du Parti communiste et la nature irrévocable du socialisme à Cuba. Pendant ce temps, les relations continuent de se dégrader avec le grand voisin, les États-Unis. Le président Donald Trump a tourné la page du dégel amorcé par son prédécesseur Barack Obama. Le chef de l'exécutif américain qualifie Cuba, le Venezuela et le Nicaragua de troïka de la tyrannie. La nouvelle constitution cubaine ne fait rien de plus que perpétuer la dictature du Parti unique, avait déclaré le secrétaire d'État Mike Pompeo après le référendum de février sur la nouvelle loi fondamentale.
Voilà, vous aurez reconnu la voix de Michel Joseph en lieu et place de Herman Ongbo. L'Assemblée nationale cubaine, j'aurais dû le dire, a mis en œuvre mercredi la nouvelle loi fondamentale du pays au moment où l'île caribéenne subit d'intenses pressions de la part des États-Unis. Et on termine avec le leader nord-coréen Kim Jong-un qui a adopté une attitude de défi au sujet du fiasco du sommet de Hanoï avec le président américain Donald Trump en affirmant que Pyongyang saurait contrecarrer les effets des sanctions internationales. C'est ce que rapportent en tout cas les médias nord-coréens aujourd'hui. Fin de ce journal, le prochain dans 50 minutes. Vous retrouverez Henri Francisque. À tout à l'heure.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.